요리는 마음을 비치는 거울이야.
RPH déroule le tapis rouge à la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Young, merci d'avoir accepté notre invitation à passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous êtes actuellement à Pézenas parce que vous avez été invité à l'occasion de la 61e rencontre cinéma de la ville. En parcourant votre biographie, je me suis rendu compte qu'il y avait trois noms qui se succédaient, Young Sing-Young, Young Henin et Young tout court. Et je me suis posé la question de savoir si ça ne correspondait pas à différentes étapes de votre parcours de vie jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions par rapport à ça?
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas paradoxal dans cette question par rapport à ces trois noms? C'est que, en fait, moi, je ne connais pas mon vrai nom de famille ni mon vrai prénom, puisque j'ai été trouvé dans la rue quand j'avais 5 ans, en 70, à Séoul, en Corée du Sud. Voilà. Donc, est-ce que j'étais capable de dire au policier qui m'a trouvé mon vrai prénom? J'en sais rien. En tout cas, ce qu'on m'a dit à l'orphelinat, c'est que Young Sik Yoon, c'était pas mon vrai prénom. Voilà. Et la vraie prononciation coréenne, en fait, c'est John Chang Sik. Voilà. Quand j'ai été adopté en 71 par une famille en Belgique, mes parents adoptifs m'ont renommé. Voilà. Et ont décidé de garder que la première partie de mon prénom composé. Et donc, ils ont décidé de me renommer Young. Voilà. Et donc, et par adoption, j'ai maintenant, un nom de famille français ou belge. Voilà. C'est Henin. Voilà.
Et votre pseudonyme?
Voilà, et actuel. Donc mon pseudonyme, c'est Young, donc J-U-N-G, c'est mon prénom, et donc c'est qui est aussi devenu ma signature, voilà.
Alors, si j'ai souhaité quand même garder des informations sur votre histoire, c'est quand même qu'elle a marqué, qu'elle en marque toujours, tout ce que vous créez. Vous êtes auteur, dessinateur de bandes dessinées, mais ensuite vous avez également travaillé sur le cinéma, avec le cinéma, et également avec le documentaire. Comment vous avez travaillé le dessin? Vous avez suivi une formation ou c'est quelque chose qui est venu comme ça par la pratique?
C'est surtout par la pratique. Hein. Je pense pas que j'étais quelqu'un d'extrêmement doué en dessin. Hein. Il y a des dessinateurs qui sont beaucoup plus doués. Et au même âge, ces dessinateurs, ces personnes dessinaient beaucoup mieux que moi. Donc j'ai appris à dessiner parce que quelque chose en moi avait envie de s'exprimer. Donc je pense que moi, ce qui m'a amené au dessin, à la bande dessinée, c'est grâce à mon père adoptif qui aimait la bande dessinée. Et donc toutes les semaines, on avait la chance de lire le magazine Spirou et le magazine Tintin. Très tôt, je me suis dit, mais c'est un formidable moyen de s'exprimer. La bande dessinée, c'est un médium extraordinaire. Je pense que j'ai appris à dessiner véritablement parce que j'avais besoin quelque part de me raconter, mon histoire. Et ça a commencé comme ça, par des petites histoires, des fictions, ou dans lesquels j'abordais déjà toutes ces thématiques qu'on retrouve dans Couleur de Pommiel, à savoir l'identité, l'amour maternel, l'Asie. Voilà, donc ce sont toutes des thématiques qu'on retrouvait déjà à l'époque. Puis un jour, je me suis dit, j'avais déjà 40 ans. Ça faisait déjà un bon moment que je faisais de la bande dessinée professionnellement. J'ai pris conscience qu'il fallait que j'aborde toutes ces thématiques que j'abordais dans des récits de fiction, mais dans une vraie autobiographie, quoi. Je veux dire, sans tourner autour du pot, sans mettre de filtre. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé Couleur de Pommiel.
Voilà, Couleur de Pommiel, c'est une grosse entreprise. Puisque c'est une autobiographie que vous écrivez, je crois qu'il y a 3 volumes.
Il y a 4 volumes pour l'instant.
4 volumes, oui. Et c'est de cette bande dessinée, de ces volumes de bande dessinée, qu'a été tiré le film qu'on a eu l'occasion de voir
tout à fait
fin d'après-midi, dans le cadre de la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Donc, Couleur de peau, miel. Vous nous expliquez un peu?
Alors, Couleur de Pommiel, le film, je dirais la transposition cinématographique du roman graphique. Lorsqu'un producteur m'a proposé de travailler sur l'adaptation de mon livre, avec le co-réalisateur...
Laurent Boileau,
oui. Très vite, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas faire un copier-coller de la bande dessinée. La bande dessinée existe. J'ai pas fait de la bande dessinée par frustration, quoi. Je veux dire, j'ai fait de la bande dessinée parce que c'est un médium, moi, que j'aime beaucoup et qui n'a pas besoin du cinéma pour avoir une légitimité. Voilà. Donc, lorsqu'on m'a proposé l'adaptation cinématographique, je me suis dit, quel intérêt de faire une adaptation littérale de la bande dessinée? Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas vers quelque chose d'un peu différent? Donc évidemment, il y a de l'animation, hein, donc, qui est pour évoquer mon histoire personnelle. Ensuite, très vite, on s'est dit que ce serait bien de rajouter aussi, de greffer donc, sur l'animation, des parties un peu plus documentaires pour ancrer mon histoire personnelle dans la grande histoire de la Corée. Ça, d'une part. Et puis, je me suis rappelé que mon parrain, le frère de mon père, avait l'habitude de nous filmer avec une petite caméra Super 8. Hein. Parce qu'on partait en vacances ensemble. Et j'avais vu ces films... Et je les ai montrés au producteur et qui trouvait que qui trouvait que ces films de famille étaient extrêmement touchants et on les a utilisés, on a trouvé un moyen de les intégrer dans le film. Et donc le film, c'est ça, c'est l'évocation de mon histoire personnelle, mais en utilisant l'animation, les films d'archives et aussi les films de famille. Et l'enjeu du film aussi, c'était d'arriver à fluidifier le passage d'un genre à l'autre, de l'animation au film de famille. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est un travail que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
Je peux vous dire, pour avoir vu le film, que le challenge a été réussi. Hein. Parce qu'on est dans l'histoire, on voit des images, mais on n'est jamais heurté du passage d'une technique à une autre. Il y a une fluidité qui fait que on suit le héros tout au long de l'histoire, sans se soucier de quelle est l'origine, quelle est la nature des images
voilà.
qu'on reçoit. Et ça, pour moi, c'était une performance, parce que quand j'ai su que c'était une juxtaposition, tout de suite, j'ai pensé mosaïque. Mosaïque, si vous voulez, c'est pas toujours très, très, très fluide. Mais là, c'était vraiment... Moi, j'ai vraiment été surpris par la qualité de l'organisation de tous ces outils visuels au service de votre histoire.
Oui, alors, j'ai pas fait ce film tout seul. Quand on fait une bande dessinée, on est seul maître à bord et c'est un métier solitaire. Lorsqu'on travaille sur un film, on travaille en équipe. Donc là, il y a un co-réalisateur, il y a des producteurs, il y a des techniciens. Il y a à peu près 200 personnes qui ont travaillé sur ce film. C'est énorme. Donc voilà. Donc le film est aussi le résultat de tout ce travail qui a été fait ensemble.
Oui, mais vous savez, dans un orchestre, quel que soit le nombre de musiciens, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre.
Oui, bien sûr, il faut une vision.
Voilà, exactement. Télérama a dit que vous, dans le film, vous racontiez un rapport ambivalent à votre pays d'origine, du rejet total à la curiosité lancinante. Vous vous y retrouvez dans la phrase de Télérama ?
Télérama ? Ouais, je ne me rappelais pas. vous voulez me la relire ?
Je l'ai sous les yeux.
Excusez-moi.
Par petites touches quotidiennes, Jung raconte son rapport ambivalent à son pays d'origine, du rejet total à la curiosité lancinante.
Ben oui. C'est tout à fait ça.
C'est ça.
Parce que ça a toujours été un problème d'ambivalence. Hein.
Tout à fait.
Comment lier... En fait, le film repose sur justement cette question de comment s'accepter tel qu'on est et comment accepter aussi, comment trouver cet équilibre. Ouais, c'est comme on dit, une situation ambivalente, on va dire.
Voilà. Je crois que le terme est bien celui qui est approprié. Dernière question, si vous permettez. Vous allez, dans la soirée, présenter un film, Tout ce qui nous relie.
Oui.
Oui.
Alors, c'est mon second film.
Pardon ?
C'est mon second film.
C'est le second film, c'est le plus récent.
On vient de le terminer en fait. C'est un film documentaire.
On y retrouve les thèmes évoqués précédemment.
Oui, bien sûr.
Mais cette fois peut-être avec un peu plus de recul parce qu'il y a une différence quand même dans le temps entre.
Il y a 12 ans. D'accord.
12 ans.
Voilà. Et là, je ne parle plus de moi, évidemment. Donc c'est différent. Il n'y a plus d'animation. C'est pas un film hybride. C'est un film documentaire qui parle. De transmission, mère-fille, la protagoniste principale, c'est Laetitia, qui est ma femme, qui est coréenne adoptée aussi, et qui a été confrontée aussi à toutes ces questions liées à son abandon et à la différence près, à la différence que lorsqu'elle est... tombée enceinte. Lorsque sa fille est née, elle s'est demandé ce qu'elle pouvait véritablement transmettre de ses origines à sa fille. Voilà.
Donc, on rappelle, avant de se quitter, vos bandes dessinées, les quatre volumes de Couleurs de peau miel, le film qui a été tiré de ces quatre volumes, et puis là, plus récemment, donc, la sortie du film
Tout ce qui nous relie.
Tout ce qui nous relie, puisque date de 2023, donc il est récent. Et il est présenté en avant-première ce soir dans le cadre de la 61e rencontre cinéma de Pesnas.
Voilà, tout à fait. C'est une avant-première.
Jung, merci beaucoup d'avoir accepté de passer quelques instants en notre compagnie.
Merci beaucoup.
Je me trouve aux côtés d'Emmanuel Millet, qui figure sur la liste des invités de la 61e rencontre cinéma de Pesnas et qui va intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de l'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation de passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays des Roues et RPH Sud. Vous avez... Avant de vous orienter les activités de l'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion, vous avez accompagné la route d'un certain nombre d'associations.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai toujours été engagée d'une manière ou d'une autre. Et avant de me lancer dans l'écriture cinématographique et la réalisation, je travaillais pour des associations telles que Médecins du Monde, Handicap International, France Terre d'Asile, le Secours Populaire beaucoup, où j'ai développé des événements culturels. Et puis, progressivement, j'ai osé me diriger vers le cinéma en écrivant d'abord des courts-métrages, en les réalisant, puis en réalisant un premier long-métrage, et dans ma lancée, en écrivant d'autres scénarios de long-métrage.
Vous avez réalisé pour le Secours Populaire une série de trois documentaires sur le thème La culture, ça change la vie.
Oui, et ça la change beaucoup. Et ça a été une aventure assez exceptionnelle, tant dans l'écriture, puisque j'ai sollicité 40 auteurs qui ont écrit des histoires courtes pour le Secours Populaire, et les 100 000 exemplaires qui ont été vendus au profit des actions culturelles du Secours Populaire ont servi pour justement créer des ateliers de théâtre, permettre aux gens de sortir. Enfin, c'était vraiment l'objectif.
Vous êtes également à l'initiative d'une collection de 10 courts-métrages contre les violences conjugales.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait organisé une soirée au théâtre de l'Odéon avec, pour le Secours Populaire, toujours, avec l'intervention de comédiens et comédiennes tout aussi merveilleux les uns que les autres. Et parmi les comédiens figurait Marie Trintignant. Et c'est vrai que ça a été un véritable choc d'apprendre ce qui lui était arrivé. Et donc, je me suis intéressée au sujet des violences conjugales. Et je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on a travaillé sur le sujet avec le Secours Populaire. Mais ça ne suffisait pas pour faire comprendre aux gens ce que c'était que les violences conjugales. Et donc j'ai proposé avec une maison de production, Les Films du Poisson, de mettre en place une collection de 10 courts-métrages contre ce terrible fléau, et faisant participer 10 réalisateurs et réalisatrices sur ce sujet.
Et cette collection de 10 courts-métrages a été diffusée par Arte.
Voilà, Arte qui a été très très engagée sur le sujet. Donc c'était quand même il y a plus de 15 ans de cela. Et je vois que les choses ont du mal encore aujourd'hui à bouger. Et le Arte diffusait en moyenne 3 à 4 films par jour pendant un mois. Donc ça a été assez formidable comme partenariat.
Vous avez écrit ou réalisé des courts-métrages contre les discriminations? Écrit ou réalisé?
Écrit. Oui, j'ai été lauréate dans le cadre d'une structure qui lançait un concours de courts-métrages sur le sujet. Et effectivement, comme ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur, je me suis lancée là aussi. Et le fait d'avoir été retenue, hein, il y avait 5 000 scénarios de court-métrage qui étaient arrivés, ils en ont sélectionné 10, m'ont encouragée à aller plus loin et écrire un premier long-métrage, La Brindille.
Toujours dans le cadre de vos activités d'écriture, vous avez adapté également un roman d'André Chédid.
Oui, tout à fait. Le message d'André Chédid, un petit roman absolument passionnant et très imagé. J'avais eu l'immense joie et honneur de rencontrer cette femme et d'échanger avec elle sur ce travail. Et effectivement, il a été écrit, il aurait dû être réalisé, mais on n'est pas parvenu malheureusement. Au bout de cette production, si bien qu'il n'a jamais vu le jour.
Au niveau de la production?
Oui, au niveau de la production, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord et malheureusement, ça n'a pas pu voir le jour. Alors aujourd'hui, c'est difficile, hein, de reprendre ce projet puisque l'histoire est celle d'un sniper qui est touché par sa victime et je crois que c'est un sujet qui ne se prête pas réellement aujourd'hui au développement en tous les cas et encore moins à la production.
Vous avez obtenu le prix du meilleur premier long métrage au Festival de Rome avec le scénario.
Oui, La Brindille, tout à fait, donc que j'ai réalisé, là pour le coup, ça a été une expérience absolument formidable. Là aussi sur un sujet engagé qui était le déni de grossesse et l'accouchement sous X, il s'agissait de, sans évidemment porter de jugement aucun, d'essayer de comprendre ces femmes qui se retrouvaient dans cette situation de ne pas pouvoir garder leur bébé à la naissance. Et c'était de voir comment apporter la lumière sur ce sujet pour justement ne pas juger ces femmes qui avaient fait cet acte d'abandon.
Vous participerez aussi, toujours dans le cadre des activités proposées au programme de la 61e rencontre cinématographique de Pézenas, à une table ronde. Et là, on va revenir à votre investissement dans le cadre de l'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion.
Voilà, l'ACID, c'est l'association, oui, tout à fait. L'Association de cinéma indépendant pour sa diffusion.
Quelle est la place du cinéma indépendant sur les écrans? Quelle stratégie déployer pour gagner en visibilité? Quel modèle économique inventer? Comment s'organise le réseau? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les participants à la table ronde auront mission de trouver des réponses.
Tout à fait. Et moi, extrêmement brièvement, j'ai juste envie de citer deux chiffres. En réalité, chaque semaine, 10 films occupent 93% des écrans de cinéma, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les autres films et ce qui ne facilite pas la tâche aux spectateurs pour voir des films différents qui ouvrent des fenêtres extrêmement diverses sur... ça peut être des sujets de société, sur des situations dans un pays, ça peut être sur le plan culturel, ça peut être des choses extrêmement riches tant dans le domaine du documentaire que de la fiction. Et donc on œuvre pour que ces films puissent être vus et rencontrer leur public.
Pour qu'un film soit réalisé et puisse aller à la rencontre des spectateurs, il faut bien sûr un certain nombre de moyens financiers.
Oui, il faut un certain nombre de moyens financiers et puis il faut une curiosité aussi et accepter de prendre des risques. C'est-à-dire qu'il est évident que c'est plus facile de proposer un cinéma commercial plutôt qu'un cinéma indépendant parce que ça rapporte plus et ça fait venir plus de gens. Et pourtant, les spectateurs sont très heureux aussi de découvrir de cinéma indépendant, aussi varié soit-il.
Le cinéma indépendant que vous venez d'évoquer, finalement, n'apporte pas tellement de sécurité, ni même de garantie aux financeurs.
C'est vrai.
C'est quand même aussi, comment dire, dans le mot indépendant. C'est-à-dire qu'on ne va pas concevoir le film pour un certain public, par rapport à certaines modes du moment ou des choses comme ça, quoi.
Oui, oui.
C'est le scénariste, le réalisateur qui reste maître de son sujet, de la façon de le traiter, sans aucune concession qui serait d'ordre financier pour pouvoir... satisfaire les investisseurs.
Tout à fait. Parfois, il y a quelques petits aménagements où on va vous souffler de prendre des comédiens bankable, comme ils disent, pour pouvoir rassurer justement les financiers d'un certain nombre d'entrées en salle. Mais il est vrai que le cinéma indépendant permet aux auteurs d'être assez libres dans leur mode d'expression.
C'est assez important que le réalisateur préfère l'acteur que demande le rôle plutôt que celui qu'attend le public.
Oui, mais c'est très frustrant aussi parce qu'on voit toujours les mêmes comédiens et on a envie d'avoir d'autres visages, d'autres talents, de révéler d'autres talents. C'est aussi un des objectifs et un des grands plaisirs des réalisateurs, c'est de trouver des perles rares et de les mettre en avant à travers un rôle, un personnage.
Les cinéastes qui sont membres donc de l'Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion œuvrent pour donner davantage de visibilité à des œuvres qui sont insuffisamment diffusées.
Oui, c'est vrai. Alors, ce ne sont pas forcément des œuvres toujours évidentes. Hein. Il peut y avoir des œuvres fragiles, mais toutes apportent énormément. Ça va être un nouveau langage cinématographique, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, une petite fenêtre sur le monde. Là, ce soir, je présente à Pézenas le film Nommé, qui est un film d'un Guinéen, Sanananada. Et c'est vrai que c'est une splendeur et c'est dommage de priver les spectateurs de ce type de cinéma.
Vous allez donc présenter ce film, et il y en a deux autres aussi que vous,
tout à fait,
que vous présenterez et qui sont inscrits au programme de la rencontre. État limite.
Oui, tout à fait, de Nicolas Peduzzi, un film documentaire qui nous alerte sur la dérive des hôpitaux en France et notamment au travers le suivi d'un psychiatre volant dans un hôpital de région parisienne.
Tout le problème du comment bien soigner dans une institution, l'hôpital médical, malade.
Exactement, c'est vraiment ça. D'où le titre « État limite », qui évidemment met en cause l'État, qui laisse une situation comme ça partir à la dérive, alors qu'il s'agit de notre santé à tous.
Exactement, c'est un service public.
C'est un service public et qui ne prend ni soin de ses malades, ni soin de ses soignants. Et c'est ce que le film montre aussi, c'est la dévotion des soignants qui donnent jusqu'à en perdre eux-mêmes la santé.
Avec un double sens sur le mot État.
Bien sûr.
État, à la fois l'État... Et puis aussi la situation dans laquelle se trouvent les hôpitaux.
Oui, tout à fait.
Mais de toute façon, facteur commun entre les deux significations du mot État, c'est limite.
Exactement. C'est là où on arrive.
On a franchi une ligne rouge.
Voilà, on a franchi une ligne rouge dans un certain nombre de services. Et c'est ce que montre le film de Nicolas Peduzzi qui sera projeté en salle demain à Pézenas à 17h30, je crois.
Troisième film que vous avez également, troisième film dont vous allez assurer la présentation, Laissez-moi.
Oui, Laissez-moi, qui est
là, c'est l'histoire d'une femme.
Oui, tout à fait, c'est un très très beau portrait de femme, une mise en scène de Maxime Rapat, donc un cinéaste suisse, un très beau portrait de femme qui, à la cinquantaine, se demande si elle peut refaire sa vie. Est-ce qu'elle va oser tout lâcher? C'est une mère sacrificielle. Et est-ce qu'elle va oser tout lâcher pour se réaliser et penser enfin à elle?
Après avoir pensé beaucoup
à son fils.
À son fils.
Handicapé, oui, tout à fait.
Avec, dans ce film, Jeanne Balibar.
Jeanne Balibar, absolument exceptionnelle, merveilleuse, qui nous a tous bluffés et qui joue avec... beaucoup de sensibilité, beaucoup de subtilité. J'invite moi les spectateurs à venir voir ce film, même s'il il est projeté de bonne heure demain matin à 9h. Ah ben, mais il en vaut vraiment la peine.
Une bonne façon de commencer la journée.
Exactement, exactement. Avec un petit débat ensuite.
Les trois films dont on vient de parler sont donc proposés par l'agence du cinéma indépendant pour sa diffusion.
Oui.
Et ce sont des avant-premières.
Et ce sont des avant-premières, exactement. Les trois films vont sortir au mois de mars, donc on est ravis. C'est vraiment très chouette de pouvoir sensibiliser le public avant la sortie de ces films. Vous voyez, par exemple, Nommé va sortir dans une vingtaine, peut-être une trentaine de salles, ce qui est très très peu et qui donne peu de chance au public comme aux cinéastes de se rencontrer.
Vous vous rendez compte de la responsabilité qui est la vôtre? Participer au lancement de ces films.
Oui, mais en même temps, c'est une responsabilité et une fierté immense parce que c'est un film absolument magnifique et les trois ont leur raison d'être, vraiment. Et ce serait terrible, par exemple, si en France, on se retrouvait privé de ce cinéma-là.
Emmanuel Millet, merci d'avoir passé ces quelques
instants. Merci beaucoup à vous. À bientôt.
Avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays d'Hérault.
Merci.